Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse, Salut Bonjour et Le Soleil. Au programme, l'égalité entre les sexes pas avant 300 ans, selon Guter. Comprendre notre fascination pour les corps musclés. Comment faire pour être heureux au quotidien. Et qu'est-ce qu'on entend quand on dort? Bonne écoute!
L'égalité entre les sexes, pas avant 300 ans. Un texte de l'Agence France-Presse, paru le 6 mars 2023 dans la presse. Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré que l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde soit un objectif de plus en plus lointain qui sera atteint au mieux dans 300 ans. L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus. Au rythme actuel, l'organisation ONU Femmes la fixe à « dans 300 ans », a dénoncé M. Guterres dans un discours à l'ouverture de deux semaines de débat à New York de la Commission de la condition de la femme, CSW, et à deux jours de la Journée internationale des femmes du 8 mars. Dans l'amphithéâtre de l'Assemblée générale, le chef de l'ONU a estimé que les droits des femmes étaient maltraités, menacés, violés à travers le monde et que le progrès effectué depuis des décennies disparaissait sous nos yeux. Il a pris l'exemple de l'Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir en août 2021 et où les femmes et les filles ont été effacées de la vie publique. Il n'a pas cité d'autres pays, mais dans nombre d'endroits, les droits de reproduction sexuelle des femmes reculent et les filles qui vont à l'école risquent d'être enlevées et agressées. M. Guterres n'a pas mentionné l'Iran, expulsé le 14 décembre 2022 avec effet immédiat de la Commission de la condition de la femme par un vote du Conseil économique et social des Nations unies, ECOSOC, sous l'impulsion des États-Unis en raison de la répression d'une révolte conduite depuis septembre par des femmes. Des siècles de patriarcat, de discrimination et de stéréotypes pénibles ont créé un fossé entre les sexes, dans les sciences et les technologies, secteurs dans lesquels les femmes ne représentent que 3% des lauréats de prix Nobel, a-t-il pris comme exemple concret. Il a rendu hommage aux chercheuses françaises Emmanuelle Charpentier et américaine Jennifer Doudna, qui ont été historiquement la première équipe de femmes à remporter un prix Nobel en sciences il y a 3 ans, en chimie en 2020. Des équipes d'hommes l'ont remporté 172 fois, a encore déploré M. Guterres. Le patriarcat contre-attaque. Nous aussi. Je suis ici pour affirmer clairement et avec force. Les Nations unies se tiennent partout aux côtés des femmes et des filles, a conclu le secrétaire général. C'était l'égalité entre les sexes, pas avant 300 ans, un texte de l'agence France-Presse paru le 6 mars 2023 dans la presse.
Comprendre notre fascination pour les corps musclés, un texte d'Olivia Lévy, paru le 5 février 2023 dans La Presse. Dans La fabrique du muscle, paru aux éditions L'Échappée, l'auteur Guillaume Vaillet, professeur de sciences économiques à l'Université Grenoble-Alpes, tente de comprendre notre fascination pour les corps musclés. Lui-même adepte de culturisme, il explique que le corps est devenu une façon de maîtriser son existence dans notre société remplie d'incertitudes et de vulnérabilités. Entrevue. D'où vient notre fascination pour les corps musclés? Il y a plusieurs facteurs historiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on accorde une attention particulière au corps et nous avons un rapport à la santé qui est très présent. Il y a également le souci de notre apparence, l'image de soi et la valorisation de l'individu. L'État se désengage. Chaque individu doit se responsabiliser et ça renforce l'idée qu'il faut se distinguer pour exister. On veut donner un sens à sa vie. Alors, on va investir dans son corps et le muscler. C'est une façon de se positionner dans la société, de revendiquer une différence. L'idée de la construction de l'identité personnelle passe par la réalisation de soi. Plus récemment, avec les réseaux sociaux, l'image qu'on véhicule, celui d'un corps musclé et très visible, renforce cette croyance que c'est à travers ce corps qu'on va avoir une identité. Est-ce qu'il va nous inciter à fabriquer notre corps? Le muscle nous fascine et c'est pour cette raison que sa fabrication est recherchée. Qu'est-ce que symbolise le muscle? Historiquement, le muscle a toujours été identifié aux hommes. Lors de l'apparition des sports modernes, deuxième partie du 19e siècle, le capitalisme va renforcer la croyance que le muscle est le symbole de la puissance et de la performance. Dans l'imaginaire, le muscle est masculin. On le voit dans les films, les bandes dessinées, les dessins animés. Le muscle fait aussi référence à une fonction de productivité et de résistance dans un monde où on a besoin de faire face à des problèmes et à des vulnérabilités. Au fil du temps, il s'est dégenré. Le muscle est aussi recherché par les femmes comme mesure de résistance face à l'imprévu. Le muscle est aussi esthétique. Les femmes vont globalement se concentrer sur le bas du corps, les cuisses et fessiers, comme Kim Kardashian, alors que chez les hommes, les muscles prioritaires sont les biceps et les pectoraux. Le muscle véhicule aussi l'image de contrôle de soi, d'une personne qui prend soin d'elle, qui est soucieuse d'une certaine exigence vis-à-vis d'elle-même, des qualités qui sont aussi valorisées dans le monde du travail d'aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer ce que vous appelez le capitalisme des vulnérabilités? Ces vulnérabilités sont produites par le système économique. Elles peuvent être liées au travail, aux crises financières, mais aussi au sentiment d'insécurité, à la santé, à l'environnement ou à l'identité de genre. Ces vulnérabilités s'accompagnent de différentes peurs, comme celle d'être malade ou de mourir. C'est pour cette raison que le corps sain, associé aux muscles, est vu comme un révélateur de performance économique et sociale. Un corps musclé est synonyme de productivité économique et renvoie à une image de performance, de maîtrise sur le monde, alors que nous avons parfois l'impression d'être dépossédés et de ne plus avoir de prise sur celui-ci. Fabriquer du muscle, c'est la volonté d'avoir le contrôle sur soi? Oui, c'est la volonté de maîtriser une destinée. Quand vous développez du muscle, vous allez le ressentir dans vos émotions. Vous êtes ancré sur terre, ce qui est très important dans une société incertaine et troublée. Vous avez un projet, un horaire, des sensations, des résultats visibles. C'est porteur pour l'individu. Muscler son corps, ce n'est pas perçu comme un loisir, mais comme un travail. Oui, on est dans une logique de travail. On est marqué par cet héritage de la culture protestante avec le travail comme source de dérivatif à l'angoisse et comme source de salut dans un monde incertain. On le retrouve dans le travail du muscle des individus parce qu'il nous construit et qu'il crée un cadre. Cette activité nous donne la sensation d'exister. Le travail va produire une certaine douleur qui est recherchée, car c'est à travers elle qu'on se transforme. Est-ce qu'on critique le fait de vouloir être musclé? On a eu longtemps en France cette opposition entre la pureté de l'esprit et cette obsession du corps mis en avant, comme si être intellectuel et être musclé n'étaient pas compatibles. En Amérique du Nord, la culture est différente. C'est perçu comme un indicateur d'une personne qui prend soin d'elle et qui a envie d'être productive. Il y a une vraie complémentarité. La musculation est critiquée quand elle est pratiquée à l'extrême, dans le bodybuilding, Arnold Schwarzenegger, Monsieur Univers. Le bodybuilding est moins en vogue car il apparaît comme trop statique et inadapté. Il y a cette critique d'être un sport qui ne sert à rien, car on se concentre sur la forme et non sur la fonction du muscle. On se dit, mais à quoi ça sert d'avoir les plus gros biceps du monde si on n'en fait rien? On dira à un joueur de hockey, de soccer ou de rugby que son corps musclé est superbe, car le muscle est en mouvement. Il sert à obtenir une meilleure performance et une meilleure endurance dans le sport. C'était « Comprendre notre fascination pour les corps musclés », un texte d'Olivia Lévy, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Comment faire pour être heureux au quotidien? Un texte de l'équipe de Salut Bonjour paru le 6 mars 2023 dans salutbonjour.ca. Il n'y a peut-être pas encore de recette miracle pour toucher au bonheur, mais voici 15 trucs pour être heureux au quotidien. Ces astuces vous aideront à mordre dans la vie, elle qui mérite d'être agréable et vécue pleinement. Vous avez l'impression d'être constamment en quête du bonheur, mais qu'il demeure introuvable? Rassurez-vous, le quotidien n'est pas toujours tout rose sous le soleil. Ces quelques conseils devraient vous permettre de renouer avec le bonheur, et vite. Comment être heureux? Faire la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi est un processus psychologique ardu et parfois même douloureux, car il implique de se regarder honnêtement et de confronter ses souffrances passées et présentes. Il s'agit de guérir ses blessures antérieures, de comprendre de quelle manière elles nous ont conduits à endosser le rôle que nous avons encore aujourd'hui, puis à essayer de retrouver la personne que vous êtes vraiment, votre moi profond et non pas celui qui est blessé. Se réconcilier avec son passé. Ce qui importe, c'est de pouvoir transformer des moments plus difficiles vécus dans le passé en leçons. Il faut que ces événements fassent partie de nous, mais qu'ils nous affectent autrement. Il s'agit, à terme, de consentir à ce qui est arrivé, de ne plus lutter contre et mieux, c'est-à-dire d'en faire quelque chose. Dormir. Selon certaines études, une bonne nuit de sommeil favorise la santé en général, le bien-être et par le fait même influence nos interactions avec les autres. Être bien reposé nous amène donc à un sentiment de bonheur non négligeable. Accepter des variations du moral. Ce matin, vous vous êtes levé du pied gauche, acceptez ces variations de votre moral comme un phénomène naturel au lieu de vous en préoccuper ou de culpabiliser. Cela passera tout seul et vous en serez moins victime. De la même façon, admettre que vos proches, eux aussi, puissent être de mauvaise humeur vous aidera à les supporter plus sereinement. Bien s'entourer. Les personnes qui nous entourent influent sur notre comportement, notre façon d'être et de voir la vie. Vous n'avez jamais remarqué qu'on a tous tendance à prendre les habitudes de nos proches? Il est donc primordial de savoir bien s'entourer afin de devenir la personne qu'on aspire à être. Si vous êtes entouré de personnes qui respirent la joie de vivre, vous aussi vous serez automatiquement plus enclin à l'être. Vous verrez la vie à travers leurs yeux d'une certaine manière. Reconnaître sa chance. La chance frappe à toutes les portes. Encore faut-il savoir la reconnaître. Si vous êtes fermé et emmuré dans vos soucis, il y a peu de risques que vous la voyez passer. Elle ira alors frapper à une autre porte, une personne qui saura la reconnaître, s'en saisir et changer le cours de sa vie. Reconnaître la chance est un véritable savoir-faire qui se travaille au quotidien. Si vous restez à attendre enfermé chez vous qu'un événement merveilleux vous arrive, vous pouvez attendre longtemps. Trouver un sens à sa vie. En apprenant à vous connaître, à vous écouter, à tourner votre attention vers l'intérieur. De plus, identifiez vos valeurs, vos talents, mettre des mots sur vos expériences de vie et en tirer des leçons. Ce sont toutes des façons de trouver le sens de sa vie. Trois attitudes peuvent nous aider à donner un sens à notre vie. Comprendre, aimer, s'engager. Posez-vous des questions telles que « Est-ce que j'ai hâte à demain ?»« Que devrais-je mettre en place pour construire mon futur sur des bases solides ?» À quoi est-ce que je veux consacrer le temps de ma vie? Se fixer des objectifs. Se fixer et écrire un objectif est le meilleur moyen de l'atteindre. Assurez-vous qu'il vous ressemble et mettez-y du vôtre à chaque jour. Cet objectif va augmenter votre niveau bonheur s'il est pleinement aligné avec votre être. Savourer l'attente. Il faut faire de la place au désir dans nos vies. À toujours tout se donner avant même de le désirer vraiment, on se prive d'un plaisir encore plus grand et on risque de devenir blasé. N'oublions pas que plus le désir est long, plus sa satisfaction procure un bonheur durable. Évitez le catastrophisme. Les nouvelles de l'actualité minent votre morale. Faites la part des choses et distancez-vous de ces éléments qui sont en apparence bien épouvantables. Optez pour la déconnexion et recentrez-vous sur le positif autour de vous. Donner. Peu importe sa forme, donner rend heureux. Ce peut être le simple fait de donner de son temps, des sous à des gens qui en ont bien besoin, des conseils à des proches autour de vous, etc. Chaque don, aussi petit soit-il, aura un impact positif dans votre quête pour être heureux, heureuse. Semer le bonheur autour de soi. Parce qu'être heureux, ça passe aussi par l'autre. Et quoi de mieux pour atteindre le bonheur véritable que de semer des graines de bonheur autour de soi? Réaliser de bonnes actions, aider son prochain, être agréable au quotidien sont autant de façons de mettre en pratique ce conseil. Provoquer des moments festifs. Créer des occasions de fêter et de souligner les moments positifs du quotidien. Ne laissez pas la fatigue prendre le dessus. Chaque bonne nouvelle devient prétexte pour un moment festif à partager avec les êtres qui vous sont chers. Vivre de nouvelles expériences. Pour maintenir les niveaux de bonheur apportés par des changements bénéfiques, il est nécessaire de continuer à vivre de nouvelles expériences positives. Par ailleurs, il est scientifiquement prouvé que les achats expérientiels génèrent plus de bonheur que les achats matériels, tant dans l'anticipation que sur l'instant et fabriquent des souvenirs qui rendent davantage heureux à long terme. Aimer et être aimé, c'est une nécessité, un fondement de notre identité. Parce que nous sommes incapables de nous aimer nous-mêmes, l'amour de l'autre nous fait du bien et justifie notre existence. Et quand il est réciproque, il nous rend plus responsables, engagés et ouverts. Vous avez entre vos mains la clé du bonheur pour être heureux au quotidien. N'attendez plus et mettez ces astuces en place dès la lecture de cet article. C'était « Comment faire pour être heureux au quotidien ». Un texte de l'équipe de Salut Bonjour, paru le 6 mars 2023 dans salutbonjour.ca. Qu'est-ce qu'on entend quand on dort? Un texte de Jean-François Clich, paru le 26 février 2023 dans Le Soleil. Science au quotidien. J'aimerais savoir ce qui se passe quand on dort et qu'il y a du bruit. Par exemple, si je laisse fonctionner un ventilateur ou un climatiseur qui émet un son continu, est-ce que l'oreille cesse de l'entendre ou est-ce qu'elle continue de travailler, même quand on dort? Et comme l'ouïe se détériore avec l'âge, est-ce que le fait de solliciter l'oreille pendant la nuit en accélère l'usure? Est-ce que le silence, la nuit, est préférable pour garder ses oreilles en santé? Demande Tony Poulain de Saint-Georges. De manière générale, oui. L'oreille fonctionne pendant la nuit et le cerveau continue jusqu'à un certain point. J'y reviens. D'interpréter ce qu'il entend, même quand on dort. Le simple fait que le sommeil puisse être dérangé par le bruit, et de très très nombreuses études l'ont établi, suffit pour s'en convaincre. De manière générale, le bruit a un impact négatif, mais il y a des bruits qui sont plus dérangeants que d'autres, précise Charles Morin, spécialiste du sommeil de l'Université Laval. Pour les gens qui vivent avec quelqu'un qui ronfle ou qui sont dans des endroits où la circulation est bruyante, ça peut être très incommodant. Par contre, si c'est un bruit comme celui d'un ventilateur ou un bruit blanc, bruit constant qui s'apparente à celui d'une chute d'eau, alors c'est moins pire. Ça peut même camoufler d'autres bruits plus dérangeants et éventuellement aider. Maintenant, la sensibilité au bruit va varier selon la phase du sommeil dans laquelle on se trouve. Quand on se couche la nuit, on passe d'abord par une phase d'endormissement où l'on est encore à moitié éveillé, phase 1, puis par une autre où le sommeil devient progressivement plus profond, phase 2. Ces deux premières étapes sont qualifiées de sommeil léger, où le cerveau continue d'interpréter les signaux sonores, ce qui nous rend assez facile à réveiller pendant ces phases-là. Par la suite, cependant, arrivent deux autres phases, les 3 et 4, que l'on distingue par des signaux que le cerveau émet et qui sont qualifiés de sommeil profond. Le cerveau se couple alors en grande partie des signaux extérieurs et il devient très difficile, mais pas impossible, de réveiller quelqu'un. Quand on le fait, d'ailleurs, la personne reste habituellement confuse pendant plusieurs minutes. Enfin, la phase finale du cycle suit le sommeil profond. C'est le fameux sommeil paradoxal, durant lequel la respiration s'accélère et où, sous les paupières, les yeux bougent rapidement dans tous les sens. Ce cycle se répète à toutes les 90 minutes environ, avec les phases de sommeil profond qui durent plus longtemps au début de la nuit et de moins en moins par la suite. Vous écoutez « Qu'est-ce qu'on entend quand on dort ?» un texte de Jean-François Cliche paru le 26 février 2023 dans Le Soleil. Encore à l'écoute. Une équipe française a fait paraître, il y a quelques années, une très, très belle étude sur l'audition pendant le sommeil dans le Journal of Neuroscience. Les chercheurs ont d'abord entraîné une vingtaine de volontaires pendant leur éveil en leur présentant une liste de mots qui référaient soit à des objets, soit à des animaux. Quand ils entendaient un nom d'objet, les participants devaient appuyer sur un bouton situé à leur gauche, ce qui activait l'hémisphère droit de leur cerveau, et sur un bouton à leur droite, hémisphère gauche activé, si c'était un nom d'animal. Ensuite, pendant qu'ils dormaient, l'activité de leur cerveau était mesurée et on leur faisait entendre d'autres mots de choses et d'animaux qu'ils n'avaient pas pratiqués. Afin d'éviter que les mots pratiqués ne déclenchent une sorte de réflexe et de s'assurer que le cerveau restait capable de traiter de l'information neuve. Résultat. Pendant le sommeil léger, le cerveau des participants s'activait aux mêmes endroits que s'il s'apprêtait à appuyer sur un bouton à gauche ou à droite, selon le type de mot. Cela indique que non seulement ils entendaient, mais qu'ils restaient capables de comprendre les mots, même s'ils dormaient. Aucune réaction de la sorte n'a cependant été enregistrée lors des sommeils profonds et paradoxaux, ce qui suggère que le cerveau était alors vraiment déconnecté. Mais tout de même, les chercheurs sont parvenus à déclencher une réponse similaire pendant le sommeil paradoxal, mais pas pendant le profond, en répétant des mots qui avaient été pratiqués pendant l'éveil, signe que le cerveau continuait jusqu'à un certain point à reconnaître des mots familiers. Surdité et sommeil. Je n'ai franchement pas trouvé grand-chose sur l'effet du bruit pendant le sommeil sur la surdité. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que le niveau de bruit hors du travail, à la maison ou dans la communauté, peut causer des pertes d'audition, ce qui suggère que cela pourrait être le cas, mais en fait, ces études n'ont pas spécifiquement mesuré l'effet du bruit pendant la nuit ou durant le sommeil. Donc, on ne sait pas. Fait intéressant. Cependant, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont examiné la relation inverse, soit l'effet de la surdité sur le sommeil. A priori, on serait tenté de penser que le fait d'entendre moins bien devrait protéger le sommeil contre les dérangements, mais en réalité, plusieurs études ont plutôt observé l'inverse, selon une revue de littérature publiée en 2019. Les personnes qui entendent moins bien ont en moyenne un moins bon sommeil que les autres, même à âge et état de santé égaux. Il y a même eu une étude très petite, cependant, qui a trouvé que les personnes sourdes ayant des implants cochléaires dorment mieux quand leur appareil est allumé que lorsqu'elles l'éteignent. Les mécanismes derrière tout cela ne sont pas encore bien compris. Mais il est possible que le cerveau maintienne une sorte de veille normale lorsque nous dormons, afin d'entendre un éventuel danger ou qu'il soit adapté à gérer un certain niveau de bruit pendant le sommeil, si bien que l'on dormirait moins bien dans un silence total. À suivre. C'était « Qu'est-ce qu'on entend quand on dort ?» un texte de Jean-François Cliche paru le 26 février 2023 dans Le Soleil.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.